Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons notre série de séminaires et j'ai invité Madame Touatia Amraoui à nous présenter la situation de l'autre côté de la Méditerranée, dans l'Afrique romaine et en particulier en Algérie. Madame Touatia Amraoui est une archéologue tenace qui a décidé de prendre à bras le corps la documentation archéologique concernant son pays d'origine, l'Algérie, pour tenter d'en tirer de la matière historique. Comme vous le savez, l'Algérie, du temps de la présence française, a fait l'objet de grandes fouilles sur des sites archéologiques aussi célèbres et emblématiques que Timgad, Lambez, Djémila, Tipaza, Cherchel, Hippone ou Mador. Le but était principalement de mettre au jour des monuments publics, forums, théâtres, thermes et de riches demeures privées afin de recueillir des statues, des mosaïques et des inscriptions dont l'Afrique et la Mauritanie se sont révélées extrêmement riches. Ces œuvres d'art et ces inscriptions étaient réunies et ensuite présentées dans des musées locaux qui attiraient un public notable comme les musées de Cherchel ou de Djémila avec leurs magnifiques mosaïques. Au cours des fouilles de ces villes, des vestiges laissés par la vie économique ont été dégagés et parfois observés, mais jamais de façon systématique ni avec suffisamment de soin et d'intérêt pour qu'on puisse en tirer des enseignements cohérents sur l'artisanat urbain et son évolution. C'est à la tâche de recueil et d'analyse systématique de cette documentation que Madame Amraoui s'est attelée avec un grand mérite et de façon plus étonnante, avec un certain succès. De façon plus étonnante, car l'état de la documentation ne laissait guère d'espoir qu'on puisse vraiment reconstituer la trame historique. Les archives sont dispersées et indigentes, les observations de base n'ont pas été faites, les fouilleurs ne s'intéressaient pas à ces humbles vestiges du travail des esclaves et des pauvres pérégrins. De plus, les archéologues de la première moitié du XXe siècle n'avaient souvent pas les connaissances de base pour comprendre les vestiges qu'ils dégageaient. Enfin, les plans et les coupes sont sommaires et lacunaires, lorsqu'ils existent, et les photographies d'époque sont rares. Par ailleurs, lorsqu'on retourne sur les sites, ce que Mme Amraoui a fait surmontant des difficultés de tous ordres, on trouve soit des lieux détruits par l'urbanisation récente, soit des ruines informes et embroussaillées. Malgré tous les handicaps, sa ténacité a permis à Mme Amraoui de réaliser d'abord un mémoire de master en 2007 sous la direction de Jean-Claude Béal à l'Université de Lyon 2 sur l'artisanat Timgad, installation et production. Et elle a ensuite considérablement élargi son domaine d'études à l'ensemble de l'Algérie dans sa thèse de doctorat intitulée « L'artisanat dans les cités antiques de l'Algérie » sous ma direction et celle de Selim Drissi de l'Institut d'archéologie de l'Université d'Alger. Cette thèse a été soutenue à Lyon le 14 décembre 2013 avec mention très honorable et les félicitations du jury. Dans le cadre de ses recherches, Madame Amraoui a obtenu successivement une allocation de recherche de l'Université de Lyon 2, puis un poste d'adjoint d'enseignement et de recherche au Collège de France, ici même, où elle exerçait l'année dernière, et cette année, le poste prestigieux de membre scientifique de la Casa de Velázquez à Madrid, qui est, comme vous le savez, un grand établissement français de recherche dépendant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui est implanté donc en Espagne. Sa thèse de doctorat sur l'artisanat dans les cités antiques de l'Algérie est en cours d'édition en Angleterre où elle sera publiée en 2017 et c'est la primeur de ses résultats qu'elle nous réserve aujourd'hui. Je lui laisse donc maintenant la parole pour une présentation synthétique à l'issue de laquelle nous débattrons de certains aspects qui méritent des approfondissements.
C'est à vous. Bonjour à tous, merci de cette présentation. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie de présenter aujourd'hui mes recherches qui ont été menées sous la direction de Jean-Pierre Brun. Dès la chute de Carthage en 146 avant notre ère, le territoire correspondant actuellement au Maghreb a peu à peu été annexé et intégré à l'Empire de Rome. Au cours du IIIe siècle, le Maghreb est découpé en trois principales provinces, donc la Maurétanie Tingitane qui correspond au Maroc, la Maurétanie Césarienne et la Numidie qui correspondent à la plus grande partie de l'Algérie, et enfin l'Afrique proconsulaire ici avec une petite partie qui est intégrée à l'heure actuelle en Algérie, et le reste correspond à la Tunisie actuelle. Donc ceci est le découpage au IIIe siècle du Maghreb. Aujourd'hui, la séance de séminaire sera axée sur l'Algérie, car les recherches récentes que j'ai menées permettent d'avoir une vision globale des activités artisanales urbaines, tout en mentionnant de manière un peu plus ponctuelle le Maroc et la Tunisie. Pour l'Algérie, des fouilles programmées extensives ont été menées dès la fin du XIXe siècle, tout d'abord dans des sites comme Timgad, comme Demila, Lambèze et Tipaza sur la zone du littoral. On remarque donc une concentration des fouilles de sites urbains plus importantes dans ce qui correspondait à la Numidie. Et on remarque également que les recherches ont été moins systématiques à l'ouest et également dans les régions littorales. Donc les recherches avaient pour but, comme l'a mentionné le professeur Jean-Pierre Brun, de mettre au jour la majorité de l'urbanisme de ces villes à des fins idéologiques et touristiques. En effet, régulièrement, au fur et à mesure de l'avancée des découvertes, des guides de sites ont été publiés à destination des visiteurs, des touristes. Ces courtes publications très succinctes, qu'il faudra un jour enrichir, décrivent les différentes découvertes avec un intérêt tout particulier envers les grands monuments publics, forums, basiliques, thermes, marchés, temples, et également les domus luxueuses présentant de riches aménagements tels que les péristyles et bien sûr les mosaïques. Dans ce contexte, qu'en est-il de l'artisanat? Quelle place les installations occupent-elles dans ces travaux? Il apparaît que, même si dès le XIXe siècle, les responsables de fouilles ont souvent signalé la découverte d'installations artisanales ou d'objets en rapport avec la production, il faut admettre que cette attention était souvent marginale et que ces vestiges étaient présentés comme des installations pittoresques destinées à diversifier le parcours des visites afin de présenter tous les aspects de la vie romaine, y compris l'aspect industriel. Bien plus tard, et dans d'autres régions du Maghreb, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, quelques recherches ont été initiées. La plus ancienne synthèse est consacrée aux ateliers de salaison de poisson du Maroc, publiée par Michel Poncic et Michel Taradel en 1965. Plus récemment, au début des années 2000, une autre étude a été publiée sur les ateliers et l'exploitation des ressources marines en Tunisie. Des études générales ou détaillées ont aussi porté sur d'autres types d'artisanat, la production du textile, notamment avec les recherches d'Andrew Wilson, la céramique, dont une synthèse a été présentée pour la FIC tardive par Michel Bonifay. On peut aussi mentionner un travail sur la production du verre publié par Daniel Foy. Mais il s'avère que les productions et les ateliers de céramique relevant du territoire actuel de la Tunisie sont de mieux en mieux connus en raison de la multiplication des recherches récentes. Mais cette thématique, donc la thématique artisanale pour le Maghreb, est loin d'être équilibrée puisque de telles investigations n'ont pas encore été menées en Algérie et au Maroc. Pour l'Algérie, la reprise des résultats des fouilles anciennes permet de localiser et d'étudier des activités artisanales urbaines à partir d'une analyse critique de la documentation disponible, donc archives, rapports de fouilles, etc., qui a été confrontée aux vestiges archéologiques et à une comparaison avec des découvertes qui ont été menées dans d'autres régions du monde romain. Donc avant d'entrer plus dans le détail, il faut revenir rapidement sur la définition de l'artisanat qui peut changer selon les spécialistes. Donc, est considéré comme artisanal toute activité de transformation manuelle d'un matériau ou d'une matière brute ou semi-finie en un produit fini ou semi-fini dans le but d'être commercialisé, donc d'être vendu. Donc, à travers cette définition, plusieurs activités peuvent être prises en compte, la production de métal, de céramique ou de textile, ainsi que les activités de transformation des denrées alimentaires, dont une partie donc, a pu être commercialisée. Certaines activités, j'y reviendrai, ne sont pas conservées parce qu'elles utilisaient des matériaux périssables ou bien les traces n'étaient pas suffisamment visibles pour permettre de reconnaître une activité artisanale. En ce qui concerne les sources disponibles, donc nous avons les vestiges archéologiques, bien sûr, et également les sources écrites pour l'Antiquité et le Moyen-Âge peuvent nous permettre d'apporter quelques éléments de réflexion sur les ateliers. Dans les années 1930, le principal vestige de production identifié en Afrique reste le pressoir à huile surtout, tant et si bien que certaines recherches récentes menées au Maghreb ont tendance à ne mentionner que les huileries lorsqu'il s'agit d'étudier l'artisanat. Or, le plus souvent, cette activité est une extension de l'activité agricole que nous aurons l'occasion d'aborder plus tard. En revanche, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, la reprise de l'étude des découvertes anciennes est marquée par quelques lacunes. Tout d'abord, même si les fouilles qui datent pour la plupart de la période coloniale ont mis au jour une bonne partie de villes de taille moyenne telles que Timgad, la plus emblématique pour l'Algérie, Djémila, Tidis, Tipaza, etc., la nature même des dégagements empêche souvent d'avoir une vision chronologique précise. D'une part, l'absence de fouilles stratigraphiques complique la datation des vestiges, mais surtout, leur état actuel correspond à la dernière phase d'occupation des sites, grosso modo de la ville tardo-antique, entre le 4e siècle de notre ère et le 6e. D'autre part, en y regardant de plus près, il apparaît que ces villes ne sont pas autant fouillées que l'on a tendance à le penser. Des sites comme Tipaza ou Djémila présentent des quartiers entiers de la ville primitive, donc ici tout autour, qui n'ont pas encore été fouillés. Et de même, la périphérie de sites tels que Timgad, par exemple, ou Tidis, n'a été que très partiellement fouillée. Donc ici, nous sommes encore dans le domaine de la ville, mais il y a des secteurs entiers qui n'ont pas encore été mis au jour. Donc ces lacunes ont deux conséquences sur une étude chronologique et de la topographie artisanale. D'abord, il est difficile de déceler les activités qui datent du Haut Empire, même si quelques témoignages peuvent être parfois récoltés. Et surtout, les zones périphériques ont pu elles aussi compter des ateliers, ce qui vient quelque peu déséquilibrer notre approche. D'un point de vue chronologique, la majorité des installations présentées datent de l'Antiquité tardive, entre le 4e et le 5e siècle de notre ère. Donc je passe maintenant à la présentation de ces activités artisanales dans le domaine urbain. Donc, j'aimerais commencer par la production de denrées alimentaires qui réunit à la fois la meunerie et la boulangerie, les salaisons de poissons et les pressoirs. Donc, en ce qui concerne la meunerie et la boulangerie, dans le Maghreb, les outils employés sont assez homogènes dans l'ensemble. L'inventaire dans les sites urbains algériens a permis d'identifier 71 individus de meules, donc de meules à grains, avec des caractéristiques qui sont similaires. Donc il s'agit d'une meule composée de deux éléments, donc la méta, ici la partie inférieure fixe, et le catillus, qui est la partie mobile. Cette forme-là, donc méta et puis catillus en forme de sablier, est surnommée modèle pompéien, puisque les premiers exemples ont été identifiés à Pompéi. La différence avec les modèles pompéiens est d'une part la taille, parce que nous avons majoritairement des moulins de petite taille et pas de grandes meules comme celles qui ont été trouvées en Italie. Et également, on se rend compte qu'elles sont produites localement dans des pierres donc issues de carrières voisines, ici en grès, mais on peut trouver également des meules produites dans du calcaire, ce qui les différencie une fois de plus du modèle italique et également de formes que l'on trouve en Gaule, dans la mesure où celles-ci étaient produites dans du basalte. Donc effectivement, très peu de meules basaltiques ont été trouvées. Quelques-unes ont été recensées, notamment une sur le site de Djémila. Les analyses ont montré qu'elles provenaient d'Orvieto, donc d'Italie, ce qui prouve qu'à un moment, il y a eu un commerce de meules entre les deux rives de la Méditerranée, mais la majeure partie a été produite sur place. D'un point de vue donc technique, ces meules sont parfois équipées d'un socle qui permet de recueillir la farine au fur et à mesure de la mouture du grain. En Tunisie, les données doivent être encore compilées, mais elles semblent pour la plupart présenter les mêmes caractéristiques d'après les travaux d'Ali Drine, dont est tirée d'ailleurs cette restitution. En revanche, au Maroc, l'étude du site de Volubilis, où plus d'une quinzaine de boulangeries ont été identifiées, ces recherches ont révélé la rareté des meules de type pompéen que je viens de vous présenter, et la plupart en fait étaient des meules à grains que l'on appelle annulaires, donc qui étaient aussi composées d'une partie fixe, ici la méta, et le catillus, lui, est de forme annulaire. Donc on le voit bien ici. On trouve quelques exemplaires également en Espagne de ce type de meules. Le deuxième élément caractéristique en fait des boulangeries sont les pétrins mécaniques. Donc il s'agit d'installations donc d'une base en pierre avec tout un système qui permettait en fait d'activer le pétrissage de la pâte avec des éléments en bois. Et quelques-uns ont été trouvés en Algérie. Toutefois, ils sont assez peu nombreux pour le moment. Qu'en est-il pour les ateliers, donc les lieux où se faisaient la meunerie et la boulangerie? Peu de boulangeries sont pour l'instant identifiées en Tunisie et en Algérie. À Djemila, par exemple, ici sur le Cardo, un petit espace ici noté 1, largement ouvert sur la rue, était muni d'un moulin à grains, d'un pétrin mécanique et de récipients en pierre qui étaient utilisés pour divers usages, soit pour laisser la pâte fermenter et autres, et également un four qui était placé ici dans l'angle, un four qui servait donc à la cuisson du pain. Donc il s'agit vraiment d'un petit atelier. Et probablement également une seconde attestation avec un croquis ici d'un four demi-circulaire qui est caractéristique des boulangeries. D'ailleurs, dans le secteur de cette petite boulangerie à Timgad, j'ai pu reconnaître un pétrin mécanique, ce qui semble confirmer la vocation de cet atelier qui était bien une boulangerie. Mais il faut avouer que pour l'instant, les attestations sont extrêmement peu nombreuses si on compare là encore les résultats aux découvertes qui ont été menées à Pompéi. Je passe maintenant donc au deuxième type de production dérivée, enfin de production alimentaire, à savoir les salaisons et les sauces de poisson. Les premières recherches ont été menées, comme je le disais tout à l'heure, au Maroc, et une grande quantité de sites ont été trouvés sur le littoral. Bien sûr, puisque le poisson devait être traité tout de suite, les ateliers sont toujours très proches de la mer. Donc plusieurs ateliers ont été trouvés au Maroc dans le domaine urbain. Et lorsque j'ai repris la recherche donc, sur l'Algérie, j'ai pu identifier 5 ateliers urbains pour le moment. Effectivement, ces ateliers pour l'instant se concentrent en Maurétanie césarienne. Vu que les sites littoraux sont très peu connus en Numidie et en Afrique proconsulaire, il est difficile pour l'instant de pouvoir en localiser. Donc, avant de présenter les ateliers, un mot sur les espèces de poissons. Donc, elles sont similaires à celles, bien sûr, que l'on retrouve tout le long du littoral sud de la Méditerranée. Donc, nous avons des espèces de poissons sédentaires, telles que le rouget, mais également des pajots. D'ailleurs, à Nabeul, en Tunisie, dans un des ateliers, des restes de pajots ont été trouvés au fond d'une cuve de salaison. Et également, les poissons migrateurs étaient pêchés. Ce sont ceux qui étaient utilisés le plus dans les salaisons. On en a retrouvé des traces dans les amphores notamment. Donc il s'agit des sardines, des thons, des alaches, des anchois, des maquereaux, qui sont, selon les espèces, pêchés plutôt au printemps ou à l'automne. L'organisation de la pêche et des infrastructures des ports reste encore peu connue. Donc il faudrait pouvoir développer un petit peu cette question-là. Donc, en ce qui concerne la typologie des ateliers, à Tipaza notamment, j'ai pu étudier deux ateliers, donc l'atelier A et l'atelier B. On remarque qu'ils sont tous les deux situés dans le centre de la ville. On le voit assez mal sur cette photo, mais l'atelier A, donc, qui est proche du Cardo. Ici, la maison des fresques. Ici, la maison de Lotis. Ici, les maisons de la mosaïque d'Achille. Donc, on voit vraiment qu'il est implanté dans un quartier résidentiel. Et l'atelier B, lui, comme on le verra, est implanté dans une série de boutiques. Donc voilà pour l'atelier A, qui avait été donc surnommé la fabrique de Garomme, découverte au début du XXe siècle. Puis Jean Baradez a poursuivi les fouilles durant les années 50, ce qui a permis d'identifier avec précision cet atelier, qui au départ avait été interprété d'abord comme un atelier de potier, puis comme une tannerie. Donc la présence de restes de poissons au fond des cuves a permis d'identifier cette installation avec précision. Donc on remarque que l'atelier en fait est implanté dans une pièce 1. Quatre cuves ici sont latérales, sont encore conservées. Il semble qu'ici, les thermes aient peu à peu envahi l'espace et il y avait probablement deux autres cuves ici qui ont été remblayées pour permettre en fait aux thermes de se développer postérieurement. Typologiquement, donc, en termes d'installation, on voit que c'est une grande pièce qui était munie de piliers avec une charpente. Et l'ensemble présente un enduit de tuiles au sol, ce qui était beaucoup plus pratique pour pouvoir nettoyer à grande eau l'atelier une fois le poisson traité. Le second atelier, lui, présente une typologie qui est totalement différente dans la mesure où il était implanté dans une série de boutiques et il occupe absolument tout l'espace. Donc là aussi, quatre cuves alignées avec une porte qui présentait un système de fermeture et on voit qu'il était également localisé à quelques mètres de la mer. Donc on remarque que ces ateliers urbains sont de petite taille, bien moins importantes que des ateliers urbains qui ont été trouvés au Maroc ou en Espagne, notamment à Bello Claudia, où on compte vraiment soit beaucoup d'ateliers, soit des ateliers avec de nombreuses cuves. Il est probable qu'à Tipaza, d'autres ateliers soient présents, mais les recherches doivent reprendre, et également à commencer par des fouilles dans ces secteurs-là. Je passe maintenant au troisième type de production alimentaire. Il s'agit des pressoirs. Il s'agit comme je le disais, du type d'installation qui est le plus mentionné, car il s'agit d'aménagements en pierre caractéristiques, bien conservés généralement, qui étaient faciles à distinguer. Mais cette activité n'est pas forcément en lien avec une activité commerciale, car elle pourrait plutôt relever, lorsqu'il s'agit d'une installation urbaine, donc, dans la majeure partie, de pressoirs qui appartenaient à la sphère domestique, donc le propriétaire urbain, le propriétaire qui avait des oliviers ou des vignes qui faisait transformer donc dans sa propriété urbaine ses denrées pour produire du vin ou de l'huile. Donc le premier aménagement caractéristique sont les broyeurs d'olives. Donc on a différents types, mais principalement donc le trapétum, donc le moulin à trapétum, et également un type qui, à ma connaissance, n'a pour l'instant, je crois, été trouvé qu'à Mador. Et il s'agit en fait d'un moulin à rouleau. Donc on voit ici le rouleau conservé in situ. En ce qui concerne les broyeurs d'olives, ils sont peu nombreux parce que souvent ils ont été récupérés a posteriori lors de l'abandon de l'activité. C'est notamment ce que remarque David Mattingly lors de ses prospections en Tunisie, dans la région de Kasserine. Un troisième moulin, également le moulin à meule cylindrique, est présent, mais il est également encore peu attesté, probablement en raison de cette récupération des matériaux. Donc, en ce qui concerne la typologie des pressoirs, nous avons une prédominance du type A3 qui est le plus répandu à la fois donc, de la Mauritanie césarienne jusqu'à l'Afrique proconsulaire. Il s'agit d'un pressoir à levier en bois, ici, qui est restitué par Christophe dans les années 1930 à partir de la découverte d'un pressoir à Mador. Donc, un pressoir en bois dont la tête vient s'ancrer en fait dans une pièce de bois avec un tenon en queue d'aronde que l'on voit ici. et donc qui est fixé lui aussi par une mortaise en queue d'aronde. L'autre extrémité du levier était reliée par des câbles à un contrepoids en pierre, donc qui est placé de l'autre côté de l'aire de pressurage. L'aire de pressurage est généralement, donc comme on le voit ici, est forcément surélevée, construite en pierre, et elle présente une mets à rigole circulaire ici sur laquelle étaient placés les scourtins, et une rigole permettait en fait au liquide de s'écouler dans une cuve de décantation qui peut présenter diverses formes selon les sites et selon les périodes. Donc, pour les pressoirs urbains, Mador est assez caractéristique, enfin, du moins assez originale, dans la mesure où elle présente pour l'instant un nombre impressionnant de pressoirs. Là, pour l'instant, une première localisation que j'ai menée, donc une douzaine de pressoirs, parfois munis de deux pressoirs, donc dans, dans un même espace. Et également d'autres pressoirs pour lesquels, là, qui sont signalés par des ronds, pour lesquels on n'a pas d'informations dans les rapports. Donc pour l'instant, on voit bien que les fouilles ont révélé des pressoirs dans tous les quartiers, et il est fort probable que les prochaines fouilles révéleront à la fois encore d'autres installations. Donc dans le cas de Mador, on peut se poser la question, s'agit-il de pressoirs qui appartenaient à une maison ou de pressoirs commerciaux, de pressoirs artisanaux, la question doit être développée. L'autre question au sujet des pressoirs, c'est leur utilisation. S'agissait-il de pressoirs à huile ou de pressoirs à vin ? La distinction, comme je le disais, est assez ardue. On sait qu'on produisait du vin en Afrique à grande échelle. Donc là, j'ai mis une scène de vendange représentée sur une mosaïque de Cherchel. Mais également, nous avons des conteneurs, donc les seuls qui sont pour l'instant identifiés avec certitude comme provenant de l'Algérie, du moins la première amphore ici, donc la Ki-1A, qui était produite en Mauritanie césarienne, dans la région de Saldae, donc l'actuelle Bougie, Béjaïa. Mais pour l'instant, il faut se demander si certains pressoirs que l'on a jusque-là identifiés comme des installations à huile n'étaient pas en fait destinés à produire du vin. C'est le cas notamment à travers une réidentification du double pressoir à vin d'Enamode, donc à Cherchel, où on reconnaît bien des fouloirs, donc attenants ou pressoirs, et les cuves de décantation que l'on reconnaît ici. L'autre difficulté, en fait, si on essaye de comprendre pourquoi on a du mal à identifier les pressoirs à vin, d'une part, comme je le disais, parce que parfois ça peut être des pressoirs à olive, enfin des pressoirs à huile, mais les broyeurs d'olive ont été récupérés. Or, c'est, comme je le disais, le critère principal à l'identification des pressoirs à huile. Donc, face à tous ces pressoirs qui ne sont pas équipés de ce type de broyeur, la question reste ouverte. Et l'un des critères importants également, et on le voit à Enamode, c'est le fouloir qu'il a, permet clairement d'identifier le pressoir à vin. D'autres pressoirs à vin ont été identifiés, notamment à Kherbet Aghoub, qui était une énorme installation de pressurage. Et également d'autres exemples, peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir plus tard. Je passe maintenant donc à un autre aspect de la production totalement différent, qui est lui la production de textiles et le traitement des étoffes tissées. Donc en termes des étapes en fait de production, on a d'abord bien sûr la tonte, donc pour récupérer la laine, mais ensuite on passe par la transformation, donc il s'agit du filage puis du tissage, de la teinture. Et enfin, les foulons qui, eux, avaient pour rôle à la fois de traiter les étoffes tissées neuves, mais également de retraiter des étoffes tissées pour les nettoyer et pour leur redonner un meilleur aspect. Donc, en ce qui concerne le filage, tout d'abord, les Les activités telles que la tonte, le nettoyage et le peignage sont très peu documentées, donc on a du mal à retrouver des traces archéologiques. Pour l'instant, je n'ai pas localisé d'outils tels que pour récupérer la laine ou pour la peigner et la préparer au filage. Généralement, donc, le filage est une activité qui est une activité domestique par excellence, donc qui était menée par les femmes dans le domaine, dans la sphère domestique. Donc, en termes de mobilier archéologique, quelques objets ont pu être reconnus dans les musées, donc une potentielle quenouille ici, des crochets de fuseaux, donc qui étaient placés sur les fuseaux pour permettre le filage. On a un exemple bien conservé d'un fuseau et d'une fusaïole en os, et également quelques exemples de fusaïoles en pierre, mais surtout de fusaïoles en céramique. Donc ici, il s'agit de fusaïoles qui ont été retaillées dans des tessons. On en a plusieurs exemples à Djémila, mais également à Carthage, dans des niveaux du 4e au 6e siècle, grosso modo. Donc le problème... on a très peu d'attestations et ça peut s'expliquer par le fait, et des exemples ethnographiques nous en donnent la preuve, qu'une bonne partie du mobilier était en bois, aussi bien le fuseau que la fusaïole, ce qui expliquerait l'absence de découverte, mais également ce type d'objet parfois n'était pas reconnu à l'époque par les fouilles anciennes et on a dû perdre beaucoup d'informations. Donc, les crochets de fuseaux ici étaient probablement également placés sur des fuseaux en bois. Donc, pour vous présenter un petit peu l'action du filage, ici on a une mosaïque remarquable sur laquelle on voit une bergère en train de filer, qui, lorsqu'on regarde dans les exemples ethnographiques, on voit en fait la permanence des mêmes gestes. Donc ici, la quenouille de chaque côté. Un fuseau avec une fusaïole qui est placée dans la partie supérieure, qu'on appelle le fuseau égyptien, et également ici un crochet, probablement également ici un crochet pour y attacher au fur et à mesure le fil filé. Donc, en ce qui concerne le tissage, j'ai trouvé très très peu d'attestations de métier à Peuzon. Pour l'instant, je n'ai que cette attestation-là qui a été trouvée à Djémila, donc des Peuzons en céramique. Celui-ci est mal conservé. Il y en a également au musée de Constantine qui proviennent probablement du site de Tidis. Et il est probable donc que ces matériaux aient été également non conservés lors des fouilles, mais il s'avère aussi que dès le début de l'époque impériale, un métier à tisser qu'on appelle donc métier à tisser vertical à deux barres horizontales, qui lui est entièrement fait de bois. Le fait qu'il soit entièrement fait de bois, et donc en matériaux périssable expliquerait l'absence en fait de traces d'activité de tissage. Si tous les éléments étaient en bois, à l'heure actuelle, on ne peut plus les retrouver archéologiquement. Et donc il est normal qu'on ne trouve pas non plus beaucoup de pesons pour cette raison-là, si le métier à tisser en bois était majoritaire. Donc je passe à la deuxième activité de traitement du textile, qui est la teinture. Donc là encore, pour l'Algérie, on a, et même pour le Maghreb en général, nous disposons de très peu de mentions, très peu d'attestations. Une mention épigraphique trouvée à Djémila mentionne en fait un couple de teinturiers de petit teint qui date du 3e siècle. Pour rappel, donc, les matières tinctoriales que l'on utilisait sont à la fois la pourpre. On n'a pas encore de traces archéologiques pour l'Algérie, mais des sources, notamment Solinus, mentionnent en fait l'exploitation de la pourpre ici à Kolo. Mais pour l'instant, aucune trace archéologique n'a été trouvée. D'ailleurs, Solinus explique qu'à Kolo, les vêtements teints à la pourpre étaient d'aussi bonne qualité que ceux teints à tire, au Levant. Également, la place des plantes tinctoriales devait être aussi importantes, car moins coûteuses. Certaines imitaient même la pourpre. On sait qu'un sagoum purpurium est signalé sur le tarif de Zaraï, donc au nord des Aurès. Ce vêtement était donc passé par ce poste de douane où il était taxé. Donc des ateliers, par contre, d'exploitation de la pourpre qui sont assez caractéristiques parce qu'on les reconnaît à travers l'amoncellement de murex, donc de coquillages qui ont été cassés pour que le mollusque soit retiré de la coquille. Donc on en a trouvé à Méninx, en Tunisie, également à Mogador au Maroc et enfin à Bérénice en Libye. Donc ce type de recherche doit encore être mené sur les côtes algériennes. En ce qui concerne les ateliers, donc comme je vous le disais, il y a très peu d'attestations. On a probablement, je pense, après avoir repris de vieux clichés de la fouille du secteur Caïd Youssef à Cherchel, on a probablement ici une chaudière que l'on pourrait comparer ici à celle de Pompéi. Donc une chaudière maçonnée dans laquelle on avait une cuve qui a été métallique, qui a été récupérée, une chaudière. Et il semblerait que ici le foyer au devant, et il semblerait qu'on avait toute une série de chaudières ici, mais qui ont été par la suite détruites. Donc il s'agit vraiment pour l'instant de la première potentielle attestation d'une teinturerie en Algérie. La troisième activité dans l'exploitation du textile sont les ateliers de Foulon, donc comme je le disais, qui traitaient les textiles neufs ou les textiles usés. On a quelques attestations en Afrique sur trois sites, donc un site en Tunisie, Tuburbo-Maïus, mais également où on a trouvé à peu près quatre ateliers, mais surtout en Algérie, en Numidie plus particulièrement, nous avons des ateliers à Tidis et à Timgad. Donc à Tidis et à Timgad, j'ai pu réunir une documentation assez complète pour permettre de comprendre leur utilisation et leur fonctionnement. Ils présentent tous une typologie qui est assez proche. Donc je vais vous présenter ici le cas de Tidis. Donc on remarque que dans cette petite ville, plusieurs ateliers ont été trouvés, donc notés par des lettres, disséminés dans différentes parties de la ville. Donc à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du rempart, par exemple l'atelier D et l'atelier F, on remarque qu'il s'agit de petites installations avec généralement trois cuves de foulage, souvent munies d'une annexe pour réaliser les activités annexes, et également une ouverture sur la rue. Donc ils étaient accessibles depuis la rue, il semble donc que ce soit des petits espaces qui ont été occupés par les artisans et qui n'ont pas de lien avec un espace domestique. Un autre exemple assez caractéristique, là il s'agit du plus grand atelier Tidis, donc avec ici 6 cuves ici, 3 cuves là, et également une annexe au centre. Il a une forme un petit peu particulière ici puisqu'il s'appuie sur le mur de soutènement. Donc en général, on observe une cuve de foulage insérée en fait dans un compartiment. Et également, donc c'est avec un toujours les cuves sont toujours assez, enfin les compartiments, les sols sont soit couverts d'enduit, soit couverts de briques, soit couverts parfois de briques donc d'opus tessellatum, des mosaïques de briques, afin que tout soit imperméabilisé. Donc voilà la vue d'une cuve ici en mauvais état, que je vous montre en fait pour vous indiquer que la principale ressource importante dans l'activité des foulons est l'eau. Et donc à Pompéi, on a montré notamment que la plupart des ateliers étaient raccordés au réseau hydraulique public, municipal. À Tidis, la situation est un petit peu différente dans la mesure où il semblerait que les ateliers étaient toujours voisins d'une citerne. Ici, on en a un exemple parfait. Une citerne est placée, donc est mitoyenne, et on a un tuyau en plomb, donc une fistula, qui venait directement approvisionner l'atelier en eau. Donc à Tidis, pour l'instant, le seul aménagement d'approvisionnement en eau qu'on a trouvé est la citerne. Et donc nous avons une énorme citerne à trois compartiments qui est localisée dans la partie supérieure du site, qui vraisemblablement par un réseau de canalisation allait approvisionner chacune des citernes du site de Tidis. Donc je passe maintenant à la troisième partie. Il s'agit de la production de céramique, de verre et de métal. Donc je reprends ici le cas de Tidis, qui est assez original. Donc il s'agit d'une petite ville aménagée en terrasse. Et cette ville est marquée en fait par une occupation de l'époque pré-romaine jusqu'à l'époque romaine, voire même médiévale. Et on a identifié à Tidis, pour l'époque donc pré-romaine, entre le 2e et le 1er siècle, une activité de production de céramique, qu'on appelle céramique numide, dans ces monuments funéraires circulaires qu'on appelle basina. Et ce type de vase modelé, peint en blanc et en rouge, a été trouvé en grande quantité. Donc on appelle ça, Gabriel Camps a appelé ça le style Tidis. Lorsque les fouilles ont été reprises sur le site, une quantité assez impressionnante de fours de potier ont été trouvés dans différents secteurs de la ville, et notamment avec une énorme concentration dans le secteur 1, où plus de 19 fours sur les 35 retrouvés sur le site ont été identifiés dans ce secteur-là. Donc très vite, André Berthier, donc le fouilleur du site dans les années 40-50, a souhaité faire un lien entre la poterie pré-romaine et la poterie de l'époque romaine. Le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de difficultés afin de dater cette production, parce que dans les années 40-50, les typologies de production céramique venaient à peine de commencer. C'est pourquoi, à travers mon travail, je me suis concentrée sur le quartier des Potiers, en essayant de localiser et relocaliser tous les fours qui avaient été découverts, mais également de comprendre les outils et de les dessiner, d'en faire des typologies, et d'étudier les ratés de cuisson afin de répondre à quelques questions. Tout d'abord, où étaient les ateliers, mais également quelle production, afin de déterminer, de faire des typochronologies et de dater cette production. Et voilà, donc quelles époques. En fait, il apparaît après la reprise du dossier que la production est extrêmement tardive, puisqu'elle est datable de la fin du 5e siècle, grosso modo, jusqu'au 7e siècle. Donc c'est assez nouveau. Cette nouvelle étude a apporté des éléments nouveaux pour permettre à la fois d'identifier, de dater ces objets, mais également de réfléchir à la typologie, puisque un nombre impressionnant a été trouvé. Environ une centaine d'outils a été découverte, ce qui est assez remarquable. Donc ça a permis également de revenir sur des identifications qui étaient fausses. Pour André Berthier, ces curettes chirurgicales qui servent à la toilette avaient été interprétées comme des outils de potier. Or, clairement, il ne s'agit pas d'outils de potier. Par contre, des outils bien plus intéressants et là directement liés au façonnage ont été identifiés. Tout d'abord, donc 8 crapaudines de tours. Donc ici, je vous ai mis une restitution, notamment celle-ci, où on a la crapaudine, et également peut-être des volants de tours que j'ai trouvés, que j'ai localisés dans le secteur. Ici, je vous ai mis donc la représentation d'un potier au travail sur une sigillée africaine. Donc on voit qu'il utilisait un tour également muni d'un tournant, donc d'une girelle, et on ne le voit pas très bien ici, mais c'était un tour à petit bâton. En fait, il faisait tourner le volant donc avec un bâton. Le principal problème en fait en Afrique, et notamment en Algérie, ce sont que généralement, dans les rapports de fouilles ou dans les études, même les plus récentes, lorsqu'on mentionne des ateliers de potiers, matériellement, ces ateliers se résument aux fours, parce que seuls les fours ont été fouillés. Les abords ont été souvent complètement négligés, donc on a du mal vraiment à identifier les composantes d'un atelier. Et c'est assez intéressant ici, grâce au site de Tidis, de pouvoir retravailler sur les outils, donc du tournage, du façonnage, jusqu'à la cuisson. Donc d'autres outils de façonnage ont pu être identifiés, donc probablement ici des estèques, et puis toute une série d'autres outils qu'on n'arrive pas vraiment à identifier pour le moment. L'autre aspect aussi assez impressionnant à Tidis, c'est la découverte d'environ 30 polissoirs. Donc, une fois que le vase était sec, il était poli, sa surface devait être régulière, etc. Donc, on a différents types de polissoirs. D'une part, ici, le pugilum. On en a trouvé à Tidis, mais également sur d'autres sites tels que Timgad ou Zana. Un autre outil encore donc de polissage, un type 2, que l'on ne trouve quasiment qu'en Afrique. Et en Algérie, je n'en ai trouvé pour l'instant qu'à Tidis. Donc, ce sont des polissoirs en forme de champignons, donc une forme assez caractéristique. On observe que sur certains de ces polissoirs, il y a des graffitis donc, qui indiquent notamment le propriétaire, le propriétaire qui était potier de l'objet. Une autre étape également est illustrée à Tidis. Il s'agit donc des outils liés au décor. Tout d'abord, des molettes, donc en céramique et en os, qui permettaient de faire des décors sur les objets. Et également ici, donc la découverte d'un poinçon de sigillée africaine D, donc un décor de palmettes ici que l'on reconnaît très bien. Ici, l'objet, donc on a un graphite donc, qui présente l'objet comme sortant, enfin appartenant à l'atelier donc ex officina Felicis, à l'atelier de Félix. Et on a retrouvé, donc Roger Guéry a retrouvé parmi les nombreux tessons trouvés à Tidis, un tesson sur lequel avait été utilisé justement ce poinçon-là. Un autre aspect du décor et donc des productions tiditaines sont les moules de lampe. Ici, ce qui est généralement les moules, notamment les grandes séries, sont faits en plâtre. Ce sont les exemples que l'on a en Tunisie. Ici, à Tidis, et notamment pour les époques tardives, les moules sont en céramique. Et on remarque là que les potiers tiditains ont procédé à deux techniques. D'une part, donc, ils ont récupéré des lampes de sigillée provenant de Tunisie, des lampes Atlantis, qu'ils ont surmoulées, donc ils ont repris la forme générale. Sur ces lampes ici, donc, à médaillon circulaire, ils ont ajouté deux protubérances latérales que l'on voit ici, là et là, et que l'on voit ici également. Donc à partir d'un modèle, ils ont créé un autre modèle. Et également, le décor fait à main levée est sorti de l'imagination du potier. Donc une triple technique, en fait, surmoulage et refaçonnage et un nouveau décor. Donc pour cette partie-là. Pour l'autre partie, il s'agit simplement d'un surmoulage classique de lampe. Enfin, un autre aspect de la production à Tidis, la présence de nombreux supports de cuisson ici, dont certains donc, présentent les noms des potiers, donc Cyrus Maximi, l'esclave de Maximus, Horus, etc. Donc parfois simplement une lettre ou bien un signe. Et ces anneaux supports de cuisson donc, servaient probablement à identifier, donc on utilisait des fours collectifs. Et ces anneaux servaient à identifier la production de chacun des potiers dans le four. À l'heure actuelle, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les grands ateliers de Tunisie, on n'a encore aucun anneau support de cuisson qui a été trouvé. On en a partout ailleurs en Méditerranée du Nord, Méditerranée occidentale au Nord. Et là, pour l'instant, les seuls exemples que l'on ait sont à Tidis et également à un autre site dans l'ouest de l'Algérie, ce qui est assez étonnant. Donc, je vais passer maintenant à la production du verre. C'est un matériau, donc le matériau était majoritairement importé depuis l'Égypte ou bien depuis le Proche-Orient. Pour l'instant, donc en Algérie, on n'a pas d'attestation de preuve en fait d'une production primaire, donc de la transformation et d'élaboration du matériau verre brut. Il ne s'agit que d'ateliers secondaires qui utilisent le verre importé. Daniel Foy signale la découverte des restes d'un four primaire qui n'est pas datable, donc peut-être daterait-il de l'Antiquité, peut-être du Moyen-Âge, et qui aurait été trouvé à Carthage. Toutefois, il semblerait que cette tentative de production de verre brut à Carthage ait échoué et que le four ait été abandonné. Donc, en ce qui concerne l'importation du verre, il était sous forme de lingots, bon, un peu plus gros. Ici, vous avez donc des petits lingots qui ont été débités dans des lingots un peu plus gros. J'en ai trouvé quelques-uns sur les sites algériens. Donc ici, il s'agit du site de Djemila, où l'on a également recensé un four qui est datable du 4e au 5e siècle. Quelques travaux ont été initiés par Baudouin Caron, par Serge Lancel et par Henriette Pavie-Descurac, qui ont tenté de travailler en fait sur les collections de verres trouvées localement en Afrique et surtout en Algérie. À Tipaza notamment, Serge Lancel a étudié une très importante collection qui provenait des nécropoles de la ville, qu'il avait lui-même fouillées, et qui sont datables entre le IIe et le IIIe siècle. Il a observé que la collection présente donc un, je cite, un échantillonnage sinon complet, du moins bien représentatif de la vaisselle en verre sous le Haut Empire. Elle a aussi sa physionomie particulière. Effectivement, si beaucoup de formes contemporaines se retrouvaient un petit peu partout dans la Méditerranée, d'autres productions sont marquées par un faciès plus local, plus original, qui prouve en fait qu'on avait des ateliers localement et qu'il ne s'agit pas d'importation. Pour l'instant encore, donc, les typochronologies demandent à être poursuivies, puisque à l'heure actuelle, nous ne disposons pour l'Algérie que des typochronologies établies par Serge Lancel. Parmi les formes qui ont été reconnues comme typiquement locales, on a cette série de vases à dépression forme 20, que l'on retrouve aussi pour des périodes contemporaines sur d'autres sites, notamment en Numidie, à Timgad. Donc je passe maintenant à la production de métal et d'objets en métal. Donc pour l'instant, c'est on va dire un dossier qui reste encore très très peu abordé. En ce qui concerne la production, donc l'extraction du minerai, il est probable que des mines aient été exploitées dès l'Antiquité. Donc elles sont souvent mentionnées parfois dans des, enfin elles sont parfois mentionnées dans des rapports de fouilles. Abderrahmane Toubal, en 1995, avait publié donc, une étude des mines qu'il pensait avoir été exploitées dès l'époque pré-romaine, voire romaine. Donc on identifie à la fois des mines de plomb, des mines de cuivre et des mines de fer, notamment beaucoup de mines de fer dans la région d'Annaba. Et il semblerait, d'après des textes, des inscriptions datant de l'époque punique, qu'il existait un commerce du fer entre Annaba et Carthage, dès l'époque pré-romaine. Et il est probable donc que cette production est bien plus ancienne qu'on a tendance à le penser. Donc il pouvait aussi y avoir de l'importation. Ici, j'ai mis l'exemple de deux barres de fer qui ont été trouvées à Annaba et publiées par Xavier Delestre. En l'occurrence, vu qu'il n'y a pas encore eu d'études, donc d'analyse faite sur ces objets-là, il est difficile de déterminer s'il s'agit de production, enfin de minerais locaux exploités localement, ou s'il s'agit d'importation de fer de régions voisines ou de régions plus ou moins lointaines de l'Empire romain. Donc pour ce qui est de la production, du moins du métal, enfin du moins de sa transformation en objet, les traces, là encore, restent fugaces. Ici, l'exemple d'une enclume bigorne qui a été trouvée à Djemila, mais qui est décontextualisée. Donc elle a probablement été trouvée dans un atelier, mais l'atelier n'a jamais été identifié. D'autres objets également, d'autres outils en lien avec le travail du métal sont présents à Djemila, mais là encore, il est impossible de déterminer d'où ils proviennent. Ensuite, à Timgad, nous avons l'exemple ici, dans le quartier en triangle, d'un atelier de fondeur de bronze. Donc, il a été identifié en raison de la présence d'une quantité d'objets assez importante en alliage cuivreux, 70 kg plus particulièrement, et également deux foyers qui, à l'heure actuelle, ont été soit remblayés, soit détruits, et qu'il ne m'a pas été possible d'étudier dans le détail. Donc, la production d'objets en métal est une activité encore difficile à reconnaître et à quantifier, mais elle devait être présente, bien sûr, dans toutes les villes africaines. À Leptiminus, notamment, une grande activité en Tunisie. Une grande activité a été identifiée par l'équipe de David Mattingly. Il faudrait pouvoir mener ces recherches à grande échelle également en Algérie. Donc j'aimerais ici également mentionner qu'il existe d'autres attestations de métiers qui ne sont pas présents à travers l'archéologie, et ces métiers nous sont attestés à travers l'épigraphie. Donc ici, un tableau qui recense toutes les activités, enfin tous les artisans présents par l'épigraphie en Algérie. Donc en tout, 44 artisans. Et on voit qu'une grande partie des activités sont représentées. D'une part, le textile, bon, avec le couple de teinturiers de Petit Ain, une couturière, un raccommodeur, un foulon, pour le textile. Dans le domaine du travail du cuir, pour lequel on n'a aucune information en raison du fait qu'il s'agit de matériaux périssables, donc deux cordonniers et un fabricant de sandales. Dans le domaine du travail du métal, ici, on a une large gamme de différents métiers représentés, notamment parce qu'une bonne partie des artisans, une bonne partie des attestations provient de Cherchel et date de l'époque de Juba II ou de Ptolémée. Donc il s'agissait d'ateliers royaux, d'ateliers de luxe. Des fourbisseurs, polisseurs qui, eux, appartiennent au domaine militaire parce qu'ils ont été trouvés dans le camp, à proximité du camp de Lambèze, du camp militaire. Un forgeron, des ciseleurs d'argent, des graveurs sur métal, deux serruriers et également un fabricant de flèches. Donc le travail du verre est attesté à Cherchel à travers une inscription. Un potier ou fabricant de tuiles. Dans le domaine alimentaire, donc des fourniers boulangers, des meuniers boulangers, et également là encore des activités qui ne sont pas restituables à travers l'archéologie, ou très peu, difficilement. Un charcutier, deux bouchers, et également un potentiel fabricant de pastilles. Un fabricant de parfums et les métiers de la construction également, donc des constructeurs maçons, un peintre et probablement également un fabricant de sol en opus signinum. Enfin, dans des mentions beaucoup plus générales, des artisans, donc faber ou artifices. Lorsqu'on s'interroge un peu sur le statut social de ces artisans, on voit qu'il y a à la fois des esclaves, mais également des citoyens romains et quelques affranchis. Donc en fait, parmi les hommes de métier, toutes les catégories sociales pouvaient donc exercer ces métiers manuels. Donc en termes de bilan, j'aimerais donc revenir ici assez rapidement sur la place des ateliers urbains et leur répartition urbaine à travers un essai de chronologie spatiale. Donc plus particulièrement, comme je le disais en début, donc en introduction, les fouilles ont été menées de telle sorte qu'il est assez difficile de reconnaître des installations qui ne datent pas du Bas-Empire, puisque les fouilles se sont vraiment arrêtées sur les derniers niveaux. Nous avons rarement en fait des sondages ou autres qui ont été menés pour les périodes antérieures, et il est assez difficile en fait de préciser la place de l'artisanat dans les villes d'époque tardo-républicaine ou du Haut Empire. Mais j'ai pu récolter quelques informations à ce sujet. Donc tout d'abord à Cherchel, où vous avez ici le site de Cherchel. Le travail de Philippe Levaux a permis de localiser la majeure partie des grands monuments et également de reconnaître la trame urbaine. Et pour l'époque pré-romaine, donc on a un secteur ici assez en dehors du rempart. Donc, un secteur de nécropole où, dans les années 60, une fouille de sauvetage, donc dans le secteur ici appelé la Cadate, nous avons le rempart ici, dans ce secteur qui va être occupé par des nécropoles à partir de la fin du 1er siècle et au cours du 2e siècle, on a des mausolées, des caissons et autres, donc une grande nécropole. Lors d'un sondage, donc le sondage 8, un atelier de potier a été reconnu. Donc, on reconnaît ici un vaste four circulaire muni d'un pilier central pour supporter la sole, ainsi qu'un deuxième four plus petit voisin. On remarque qu'il a ensuite été désaffecté, que des constructions ont été construites au-dessus et autour également. Et également, on observe, grâce à un autre cliché de la fouille, que peu à peu, des inhumations en amphore se sont venues en fait réoccuper l'espace. Et ici, il s'agit potentiellement d'une récelle 2-4 et ici d'une pasquale 1, ce qui donnerait en fait comme datation pour l'activité du four une datation entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après. La présence de cette installation en marge de la ville, donc en marge du rempart, nous laisse à penser qu'en fait cet atelier a toujours été à l'extérieur de la ville. Hélas, on ne sait pas à quoi il servait, probablement à travers la comparaison avec des exemples tunisiens de ce type de four à pilier central, très grand, donc plus de 3 mètres de diamètre, il aurait pu servir à la production, enfin, la cuisson d'amphores. Et c'est très intéressant parce que pour l'instant, mis à part des amphores du 3e siècle à Béjaïa, on ne connaît absolument rien des autres productions d'amphores provenant d'Algérie, notamment pour les périodes antérieures, donc tardo-républicaine et haut empire. Mais hélas, pour l'instant, on ne peut pas apporter d'informations supplémentaires sur les produits qui étaient produits ici. Je passe à un second site, en l'occurrence le site d'Annaba, qui est localisé sur le littoral à proximité de la frontière tunisienne. Ici, donc, le site a été fouillé, mais ce sont surtout là encore les monuments principaux et quelques artères qui ont été dégagées. Dans ce secteur-ci, Jean-Paul Morel, dans les années 60, lors d'un sondage, a reconnu la présence d'un four à potier qui servait probablement à faire cuire de la céramique à glaçure plombifère. Celui-ci date également très probablement du 1er siècle de notre ère, puisqu'il va être également désaffecté et dessus va être construit le temple dédié Constantes, probablement à la fin du 1er siècle ou au tout début du 2e siècle. On a du mal, vu qu'on connaît, très très peu la ville d'Annaba et notamment la ville de l'époque du Haut Empire, on a du mal en fait à déterminer à l'origine quel emplacement occupait le four. C'est assez difficile de le comprendre. Un second secteur a également ici ce qui a été au IVe siècle développé, et il s'agit d'un quartier chrétien, où Erwan Marek donc, a fouillé la basilique, un baptistère et également d'autres installations. Et vous avez ici la vue sur le quartier chrétien. Le baptistère est ici, la basilique chrétienne est là. Et donc, au cours de la fouille, il a reconnu la présence de cuves antérieures qui avaient été désaffectées et qui occupaient la nef occidentale du site, enfin, pardon, de la basilique, et également dans d'autres secteurs un petit peu plus au nord. Donc, il s'agit de grandes cuves ovales qui fonctionnent souvent par groupe de deux, donc une cuve ovale et une cuve circulaire. Et voilà, donc lorsqu'on essaye par comparaison un petit peu d'interpréter ces installations, on retrouve des parallèles notamment à Nebel en Tunisie où ce type d'installation est interprété comme des cuves de salaison, de poissons. Donc il semblerait qu'à une époque antérieure, tout ce secteur était occupé par une vaste activité de transformation du poisson qui a peu à peu été abandonnée et a connu une occupation résidentielle, puis la construction de l'église dans ce secteur-là. Donc quand on passe donc à la période qui est la mieux connue, comme je le disais, les villes entre le 4e et le 5e siècle, là il est plus facile de faire une étude de la topographie artisanale. Ici je vous ai mis le site de Timgat parce que c'est l'un des sites qui n'a pas été le mieux fouillé, mais on va dire le plus fouillé, où on a une vision un petit peu plus large en fait de l'urbanisme, plus précise. Donc nous avons des pressoirs, mais ça il s'agira en l'occurrence d'une activité domaniale, donc privée. Mais nous avons dans les extensions de la ville, donc la ville ici est construite en sang de notre ère, puis au fur et à mesure, à partir de la seconde moitié du IIe siècle, la ville va déborder de son centre primaire, donc le rempart va être démantelé, et peu à peu, d'autres monuments et d'autres types d'occupations vont peu à peu occuper l'espace autour, tout en faisant bien sûr toujours partie du domaine urbain. Donc je vous mentionnais tout à l'heure l'atelier de fondeur de métal qui est ici, donc dans un quartier en triangle au croisement de deux grandes voies. Donc il était implanté dans un secteur qui comptait à la fois de l'artisanat et du commerce. Également deux ateliers de potiers, donc un grand atelier de potiers ici à proximité d'une domus, d'une grande domus, celle d'Aelius Julianus, mais également à proximité de thermes publics que l'on retrouve ici. Un autre four a été localisé ici le long du rempart oriental. C'est dommage, j'ai souhaité aller le voir, mais il est actuellement remblayé. C'est une installation intéressante parce que, outre la présence de trois fours, on a également une disposition, donc une cour centrale, les fours, et également des pièces qui rayonnent tout autour avec des bassins de préparation de l'argile. Donc il aurait été possible de pouvoir enfin étudier un atelier complet, mais malheureusement, il a été par la suite totalement, enfin, il reste actuellement totalement invisible. Ensuite aussi, Timgad, donc tout à l'heure je vous mentionnais les ateliers de Foulon. Donc on a une concentration d'ateliers ici dans le quartier nord-est, avec également ponctuellement un atelier ici, ici, et un atelier, enfin deux ateliers ici. Donc on se rend compte que nous avons des activités à la fois dans le centre primitif de la ville, qui occupent de petits espaces dans les îlots, généralement de 3 à 4 pièces au maximum, et que des activités qui demandent plus d'espace ont été, donc, sont allées occuper des espaces plus larges au sein des extensions. Donc, un dernier exemple. Ici, on tire sur la chronologie. La ville africaine à l'époque tardo-antique, donc entre le 5e et le 7e siècle, entre la période vandale jusqu'à la période byzantine, les villes africaines ont encore, pour la plupart, été encore donc occupées. Simplement, ces activités-là, ces occupations-là sont encore difficiles à comprendre, et les fouilles ne sont pas vraiment intéressées ni au niveau antérieur, comme je le disais, ni vraiment au niveau postérieur. Donc il est assez difficile d'avoir une vision globale de ces villes-là. On se rend compte simplement que les espaces sont peu à peu abandonnés, notamment les monuments publics. Ici, vous avez l'exemple du forum d'Oukimaïus en Tunisie, qui a été occupé par un pressoir. Également ici, à proximité du Capitole de Lambèse, un autre pressoir a été implanté, probablement au cours du VIe siècle de notre ère. La principale caractéristique, c'est qu'ils vont réemployer, que les artisans vont réemployer des monuments de l'architecture monumentale, notamment des dédicaces, ou bien des dédicaces, des bases de colonnes, etc., de statues, etc. Ici, une inscription qui mentionne Mercure, qui a été transformée. Qui a été retaillé pour permettre de l'utiliser en tant que pressoir. Donc il est assez difficile de comprendre encore les modalités de ces nouvelles implantations, mais clairement il semblerait qu'elles se déroulent lorsque le pouvoir public est moins important, que le pouvoir municipal ne contrôle plus en fait les monuments et qu'une grande partie a été abandonnée. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur la localisation, mais également sur la compréhension des modalités d'implantation des ateliers de manière chronologique. Mais ces premiers aspects montrent que diverses activités étaient présentes dans le milieu urbain au cours de l'Antiquité et qu'elles se sont plus ou moins maintenues à travers les siècles. Merci.